France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Barthélémy Gaillard, Fanny Richer, Mélanie Chalandon, Sacha Mattei et Pénélope Lemoguen, réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Jean-Guilain Meige. Deuxième volet de notre série consacrée à la Tunisie, les désenchantements d'une nation 70 ans après l'indépendance et 15 ans après la révolution de Jasmin. Nous parlions hier du chemin vers la démocratie, aujourd'hui entravé par le président Kais Saied. Aujourd'hui, les inégalités territoriales en Tunisie et la révolte des laissés pour compte.
Aujourd'hui, en tant que société civile, nous sommes ici pour soutenir l'affaire engagée contre le complexe chimique à Gabès. Si Dieu le veut, la Cour nous rendra justice en mettant fin à un crime environnemental qui dure à Gabès depuis plus de 50 ans.
Aujourd'hui, les revendications des habitants de la région ne sont pas exagérées. Nous vivons à Medzouna dans des conditions extrêmement difficiles, notamment à cause de l'absence d'eau potable.
Rien n'a changé. Le coût de la vie, la tyrannie, l'oppression, le chômage, la marginalisation du peuple, surtout dans les régions rurales qui sont totalement livrées à elles-mêmes.
Dans son livre « Résistance affective », l'anthropologue Shora Makaremi, que nous recevions la semaine dernière pour parler de son pays natal, l'Iran, et de la façon dont se construit l'indignation, raconte plusieurs scènes distantes les unes des autres, mais qui forment les nœuds d'un réseau politique contemporain, celui des mobilisations collectives déclenchées par la mort de quelqu'un. En Tunisie, à Sidi Bouzid, le 17 décembre 2010, le vendeur ambulant de fruits, Mohamed Bouazizi, se voit verbalisé par une policière municipale qui lui confisque sa balance. Lui veut se défendre, se rend à la préfecture pour déposer plainte. On lui refuse l'entrée. Quelques minutes plus tard, il revient avec un bidon d'essence, monte sur son étal, s'asperge et s'immole. La foule immense présente à ses funérailles se transforme en manifestation. La police tire à balles réelles. La colère se répand dans tout le pays. C'est le début de la révolution de Jasmin. L'indignation, écrit Shora Makaremi, ne descend pas des prescriptions ou des discours d'experts. Elle n'a pas besoin d'un cadre institutionnel pour exister. L'indignation engage une réappropriation collective et par le bas. Ce n'est pas une émotion de séparation, mais de partage. Septembre 2025, cette fois à Gabès, dans le sud-est de la Tunisie, sur le littoral, des dizaines d'adultes, mais surtout des enfants, sont admis à l'hôpital avec des symptômes d'asphyxie, de difficultés respiratoires sévères. Ça fait des années que les habitants alertent sur la pollution engendrée par les usines chimiques de la ville. Face aux manifestations immenses, le président Kais Saied a certes dit sa tristesse. Je cite, envoyer une commission ministérielle sur place, mais depuis, rien. Et certains membres du collectif Stop Pollution de Gabès ont même été condamnés à de la prison. À Sidi Bouzid, à Gabès, mais aussi Mezouna ou Redeyef, les habitants se sentent et se disent totalement oubliés par l'État. Comment celui-ci compte-t-il ou non y répondre? Comment ces inégalités territoriales ont-elles été produites? Nous en parlons ce matin avec nos invités Hamza Medeb. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Merci d'être avec nous dans Culture Monde. Vous êtes chercheur au Carnegie Middle East Center. Vos recherches portent sur l'économie politique de la Tunisie et vous êtes co-auteur de l'état d'injustice au Maghreb avec Irène Bono, Béatrice Hibou et Mohamed Tozi. Vous êtes ici dans ce studio avec Diane Robert. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue également. Vous êtes docteur en géographie de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, post-doctorante à l'Institut de Recherche pour le Développement au sein du projet ANR EcoBoom. Et vous avez passé beaucoup de temps à Gabès entre 2016 et 2020 pour votre thèse. Vous y êtes retourné depuis. Comment se représenter cette ville de Gabès et surtout ses installations industrielles pour bien comprendre comment les habitants de la ville y sont exposés?
Alors c'est une ville littorale qui est située donc au sud de la Tunisie et sa particularité c'est d'être c'est de voir la présence d'oasis en bordure de la mer, ce qui fait un peu la fierté des habitants.
Et grandes palmeraies.
Voilà, avec des palmiers dattiers, une culture par étage Et donc, un lien avec ces activités-là pour une grande partie de la population de la ville. Mais à partir de la fin des années 60, Gabès a été choisi pour accueillir un pôle de transformation de phosphate dans le cadre, à l'époque, de l'économie planifiée hein, qui était un petit peu en vogue dans les années 60. Bon, le projet a pris un peu de retard et il s'est réalisé à partir de 1972. Donc, un peu au milieu des oasis, des unités de transformation de phosphate ont vu le jour progressivement. Elles sont aujourd'hui sous la gestion d'une entreprise publique, le groupe chimique tunisien. Et voilà, c'est de la chimie lourde. Et donc, il y a des impacts environnementaux très, très lourds, des émissions de gaz toxiques, mais aussi une pollution de la mer avec une matière, le phosphogypse, qui est une sorte de boue qui est déversée en quantité astronomique au niveau des unités de Gabès. Et il y a aussi une pollution des sols, au fluor, etc.
Plus précisément, ces usines transforment le phosphate brut extrait du bassin minier de Gafsa, ici transformé donc en acide phosphorique et en engrais agricole, avec très souvent des dégazages de ces usines. En tout cas, l'air est saturé d'un mélange de soufre, d'ammoniac et de fluor.
L'activité industrielle consiste principalement à transformer le phosphate pour l'utiliser comme engrais. Aujourd'hui, cette industrie nuit à l'air, à la mer et à toutes les formes de vie ici. Il y a actuellement 16 000 tonnes de phosphogypse radioactif contenant des matières solides qui sont déversées directement dans la mer, ce qui a gravement endommagé la biodiversité marine, la faisant reculer d'environ 93%.
Le coordinateur de l'association Stop Pollution, interrogé par TV5 Monde dans un documentaire Tunisie, Gabès polluée par le phosphate, appelle à l'aide. Que s'est-il passé, Diane Robert, en septembre dernier pour que plus de 300 personnes soient hospitalisées? Quel dysfonctionnement a révéler ces intoxications au gaz?
Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Je pense qu'on ne le sait pas. Enfin, il n'est pas sûr que la commission qui a été nommée par le président ait vraiment... Enfin, en tout cas, elle n'a pas publié ses conclusions. Après, ce qui s'est passé, les épisodes d'asphyxie se sont déjà produits dans la décennie 2010. Ce n'est pas la première fois, mais peut-être que ce qui est un peu particulier cette fois, c'est l'ampleur et la répétition de ces épisodes avec des centaines de personnes hospitalisées, des enfants et dont certains avec des séquelles neurologiques. Donc ça a été particulièrement massif et ça, je pense que ça suscite une indignation
Une indignation, d'autant que les habitants, on les entend beaucoup dans les manifestations, disent « là, ça touche à nos enfants ». En fait, ce n'est plus possible de l'accepter. Ça n'est plus possible d'accepter à la fois que ces usines continuent à polluer notre air. Ce n'est plus possible d'accepter non plus que les hôpitaux ne puissent plus soigner nos enfants. Parce que, Hamza Medeb, on est aussi... les problèmes sont divers, autant en amont, donc la présence de ces usines, qu'en aval, la prise en charge des effets indésirables de cette pollution.
Oui, absolument. La population, en tout cas à Gabès, vit la situation comme étant une population vraiment lésée, oubliée. Il faut rappeler qu'à Gabès, il n'y a pas un hôpital capable de prendre en charge les victimes de cancer, par exemple, de voies respiratoires ou les victimes graves de ces nuisances environnementales.
On précise que c'est la plus grande ville du sud tunisien après Sfax, 10 000 habitants et pas d'hôpital digne de ce nom.
Absolument, absolument. Et c'est l'une des revendications essentielles, aussi bien d'ailleurs à Gabès qu'en amont, je veux dire, au bassin minier de Gafsa, où le phosphate est extrait avant d'être envoyé à Gabès pour être traité. Et donc, ces populations, je pense que vivent vraiment ces nuisances environnementales comme une marque, un reflet de l'injustice, du déni de leurs conditions de victimes de ces groupes chimiques ou de ces groupes industriels ou de cette industrie extractive et de la démission de l'État vis-à-vis de sa propre population en termes un État incapable de proposer ne serait-ce qu'une prise en charge sanitaire aux victimes de la pollution.
Aujourd'hui, Diane Robert, les habitants de Gabès doivent aller jusqu'à Sfax, parfois Tunis, pour se faire soigner.
Tout à fait, et justement la revendication d'avoir un centre hospitalier universitaire à Gabès est une revendication ancienne. Déjà en 2013, il y avait des manifestations très importantes avec au moins, enfin peut-être 30 000 personnes, c'est toujours un peu délicat de savoir exactement combien, mais 30 000 personnes qui étaient sorties dans la rue dans le cadre d'une grève générale qui était déjà à l'époque appelée par le syndicat, l'UGTT, l'Union Générale Tunisienne du Travail, enfin sa section régionale. Et depuis, il n'y a pas eu de changement. Peut-être, oui.
Oui, allez-y, Diane Robert.
Enfin, ce que je voulais dire, c'est que cet épisode-là de mobilisation fait suite aussi à de non, enfin, une mobilisation avec plusieurs temps forts au cours des années 2010, donc autour de ce sujet-là, mais aussi autour de la question du phosphogypse. Des mobilisations aussi des pêcheurs, des agriculteurs qui subissent des pertes de revenus, des mobilisations des riverains de la zone industrielle, mais aussi de groupes de chômeurs qui souffrent quand même aussi d'une situation de sous-emploi. L'industrie chimique génère certes des milliers d'emplois, mais elle entrave aussi potentiellement d'autres activités économiques. Et en tout cas, le taux de chômage est particulièrement élevé à Gabès.
Hamza Medeb, Diane Robert nous rappelait que ces usines datent de 1972 à Gabès. Est-ce que vous pouvez nous aider à resituer cette installation dans le contexte politique et industriel de l'époque? Pourquoi la ville de Gabès est-elle choisie pour installer ces usines-là particulièrement polluantes?
Alors on retrouve là deux aspects essentiellement, je veux dire, importants. Le premier, c'est l'œuvre de modernisation de l'économie par l'État postcolonial et le secteur du phosphate, c'est un secteur clé en Tunisie, rappelant que le pays avait la possibilité et avait la capacité d'exporter jusqu'à 10 millions de tonnes par an en 2010. Aujourd'hui, il n'exporte que 3 à 4 millions. Le secteur permet aussi de booster l'activité agricole à travers la production d'engrais phosphatés, etc. Donc le secteur du phosphate a été désigné comme une des locomotives de développement du pays. Et l'extraction se fait dans le bassin minier de Gafsa, à l'intérieur du pays, mais le traitement se fait à Gabès, qui est, comme Diane Robert l'a mentionné, une oasis et quasiment la seule oasis côtière au monde. Et donc ça lui donne une particularité extrêmement intéressante, mais une fragilité en termes d'écosystème extrêmement difficile. Et donc cette ouverture sur la mer propose Gabès comme potentiellement la région capable d'abriter cette industrie chimique qui est destinée non seulement à l'utilisation interne, à l'agriculture, etc., donc, mais aussi à l'export.
Et d'ailleurs, la Tunisie, on en parlera un peu plus tard, mais ne compte pas aujourd'hui laisser tomber cette production-là.
Absolument, absolument, parce qu'une bonne partie de cette production est destinée à l'export. Et on a vu justement beaucoup de partenaires étrangers de la Tunisie, l'Inde, entre autres, la Chine, nouer des partenariats sur ce secteur-là. Et ça a été, et la Tunisie a trouvé un débouché extrêmement important pour les engrais phosphatés qu'elle produisait à partir de Gabès, justement. L'autre élément qui est important à mentionner, c'est que malheureusement, cette œuvre modernisatrice de l'État s'est faite au détriment des populations, avec un désintérêt pour le coût, social et le coût environnemental que ça allait générer. C'est le cas au bassin minier de Gafsa, et on a vu une succession de mobilisations massives, et la plus importante a été en 2007, au moment de la révolte du bassin minier, et on l'a vu, on le voit toujours avec des mobilisations périodiques qui se font périodiquement à Gabès pour dénoncer justement le coût humain et sanitaire de cette industrie.
Cette ville de Gabès, elle se trouve donc sur le littoral. Or, comme les deux plus importantes villes de Tunisie, Tunis et Sfax, sont sur le littoral, on peut très vite penser que la fracture territoriale se situe entre les villes du bord de mer et celles qui ne le sont pas. Gabès prouve que ce n'est pas vrai. Comment dessiner, entre guillemets, cette fracture territoriale?
Alors, il faudrait peut-être faire un petit contextualiser notre discussion et faire un petit rappel historique, parce que la question des inégalités régionales, des inégalités territoriales n'est pas propre à la Tunisie. On retrouve cette question dans beaucoup d'autres pays, et en particulier par exemple l'Italie, avec la question du sud italien, le Mezzogiorno, etc. En Turquie et parfois même en France, on parle pas mal d'un certain nombre de régions qui ont en tout cas moins développé que d'autres, etc. Par contre, ce qui est vraiment frappant dans la trajectoire tunisienne, c'est que ces inégalités territoriales et spatiales sont historiquement situées. Elles ont une histoire. Elles font partie de ce que Béatrice Ibou a appelé une formation asymétrique de l'État. C'est que ces asymétries territoriales et sociales ont été très tôt constitutives de la trajectoire de formation dans l'État tunisien. Il faut remonter vraiment à Carthage. Pour comprendre d'où vient un peu cette division ou cette démarcation entre l'intérieur et l'intérieur et les régions côtières et l'intérieur du pays. À l'époque, Carthage, les comptoirs, les fameux emporia, les comptoirs maritimes et commerciaux sur la côte ont eu un rapport réellement complexe avec les tribus de l'intérieur, et il y a eu même un établissement d'une ligne de démarcation qu'on a appelée les fosses puniques, qui a été reprise par à l'époque romaine, et qui dont le nom était devenu les fossa regia, en quelque sorte analysée et décrite par Sophie Bessis dans son livre sur l'histoire de la Tunisie. Et cette ligne de démarcation, elle marque une démarcation en réalité, elle coupe le pays selon un axe transversal du nord-ouest vers vers Sfax, jusqu'à Sfax, et distingue et démarque en réalité ou distingue les régions agricoles et fertiles d'un côté, les terres fertiles d'un côté, donc de l'est du pays, et les terres arides, et les étendues arides et désertiques. Et donc on retrouve en quelque sorte ici une démarcation territoriale, mais aussi un rapport complexe entre les populations de l'intérieur et les populations de la côte, entre les tribus de l'intérieur et les populations citadines de la côte.
Diane Robert, pendant la colonisation de la Tunisie par ailleurs, l'administration a développé principalement le nord littoral du pays. Est-ce qu'on sait pourquoi? Pourquoi avoir développé plutôt cette région-là? Et surtout, pourquoi l'État indépendant par la suite, à partir de 1956, n'a pas réussi à inverser cette tendance?
Alors, durant la période coloniale, l'agriculture était sans doute plus facile à mener, enfin, au nord du pays, et c'est aussi là que se concentraient les populations urbaines. Donc, c'est l'endroit qui a été, enfin, l'espace qui a été le plus développé à l'époque, avec en plus l'extraction de phosphate et de fer dans la frange frontalière à l'ouest, donc la frontière algérienne. Et par la suite, en fait, c'était quand même une préoccupation de l'État nouvellement indépendant de pouvoir restaurer, de pouvoir corriger un peu cet état de fait, et avec notamment une politique de pôle de développement qui devait donc transformer les ressources naturelles dans des régions historiquement peu développées.
Ça, c'était sous Bourguiba et son ministre du Développement, Ahmed Ben Salah, d'ailleurs, qui pensait en pôle de développement, qui parlait en pôle de développement.
Tout à fait. Et Gabès faisait partie de ces pôles de développement et devait justement tirer le développement de la région du sud tunisien. Mais justement, c'était un investissement très capitalistique et peu générateur d'emplois. Par ailleurs, ensuite, les politiques qui ont été menées à partir des années 70 et plus encore après le plan d'ajustement structurel de 1986 ont accru justement ce clivage entre le littoral et l'intérieur, puisque les investissements, les activités touristiques, les usines textiles, etc., se sont concentrées sur la façade littorale, et notamment justement à partir de Sfax et jusqu'à Tunis, avec aussi le développement, enfin un développement peut-être plus accentué dans la région du Sahel, en tout cas ce qui a été critiqué puisque c'était la région d'origine à la fois de Bourguiba et de Ben Ali, et donc qui a pu bénéficier de certains investissements et qui ont été ensuite un peu vu avec envie peut-être, ou en tout cas, par les populations du reste du territoire qui se sont trouvées marginalisées.
Des populations comme par exemple celle de Sidi Bouzid, d'où est partie la révolte de 2010, de la fin 2010, ou encore la région de Kasserine, c'est à 250 km au sud-ouest de Tunis, qui est également une région depuis laquelle des caravanes, à partir de décembre 2010, partaient vers Tunis pour expliquer ce qui se passait chez eux.
Région marginalisée. C'est un terme difficile à accepter pour nous. La région de Kasserine n'est pas marginalisée. Nous avons beaucoup de gens cultivés. Ici, c'est une terre de culture et de civilisation. Une civilisation ancienne et grande. C'est une région où il y a de nombreux vestiges, mais qui ne sont pas exploités comme il faut. On peut espérer qu'avec le temps, la situation va s'améliorer. Et pourquoi pas que des touristes viendront ici, à Kasserine.
Le gouverneur de Kasserine dans le centre-ouest, Voices from Kasserine, c'est l'extrait d'un documentaire d'Olfa Lamloum et Michel Tabet qui date de 2017. Cette région de Kasserine relève de la même logique, Hamza Medeb, que la ville de Gabès dont on parlait tout à l'heure. C'est d'ailleurs une région qui a demandé à être reconnue comme victime. On sait où en est cette démarche-là?
Alors, un dossier a été déposé devant l'instance Vérité et Dignité. Justement, ça a été une première que une région dépose un dossier pour être reconnue comme victime. Donc, on ne parle pas d'une personne physique, mais d'une région et
victime d'une politique de développement.
D'une politique de développement absolument inégale, qui n'a fait que accentuer et aggraver les problèmes de développement, les retards de développement dans cette région, en rappelant que le taux de chômage à Kasserine est le double du taux de chômage national, le taux d'illettrisme est trois fois plus élevé que le taux national. La région manque vraiment d'infrastructures. On parlait d'infrastructures sanitaires en termes hospitalières. Kasserine aussi manque aussi. Et ça, une des demandes essentielles. Elle n'est pas connectée, je veux dire, en termes de connexion avec des lignes de chemin de fer, etc. C'est une région qui est à la frontière algérienne et qui pâtit de cet isolement et de l'absence d'investissement public. Donc ce dossier a été déposé en 2015. Alors, où on est, l'instance Vérité Dignité a reconnu le caractère injuste, absolument, les retards de développement qui, de toute évidence, sont particulièrement importants à Kasserine par rapport à d'autres régions. En revanche, et elle a préconisé de mettre en place un certain nombre de compensations, y compris une politique de discrimination positive, chose qui n'a pas été suivi des faits concrètement, bien entendu.
Quand on parle des injustices territoriales aujourd'hui, que ce soit par le prisme de ces catastrophes environnementales que subissent certains habitants de certaines régions délaissées, donc Gabès, on parle également donc de Kasserine, on parle de Mezouna, où trois lycéens sont morts il y a un an après l'effondrement d'un mur de leur établissement. Les secours ont mis 30 minutes pour venir parce que pareil, il n'y a absolument aucun poste de secours dans cette ville. Et par ailleurs, ça faisait très longtemps que le proviseur de l'établissement disait qu'il fallait absolument réparer ce mur, tout comme le dortoir des garçons où les enfants ne peuvent plus dormir parce qu'ils menacent de s'effondrer. Il y a aussi Redeyev dans le bassin minier de Gafsa où une infirmière de l'hôpital local est morte en décembre suite à une série de négligences. L'hôpital ne respectait pas les normes de sécurité. Est-ce qu'on parle là, Hamza Medeb, d'après vous, d'une stratégie ou d'un impensé? Ces inégalités territoriales sont-elles le fruit d'une politique ou vraiment d'un impensé, oui, de quelque chose auquel qu'on n'a pas prévu?
Alors, c'est une très bonne question et elle mérite vraiment d'être
étoffée.
Absolument étoffée, parce que encore une fois, on n'est pas face à un État postcolonial qui est responsable, qui a sciemment mis en place des politiques de développement injuste visant à léser un certain nombre de régions. Quoique, malheureusement, les tentatives qui ont été menées ont échoué. On est face plutôt, je dirais, à vraiment un processus historique et un rapport réellement complexe où le rapport de la façade maritime avec son arrière-pays a été fait d'une relation extractiviste. On extrait la plus-value agricole, on extrait la main-d'œuvre, on extrait les minerais, on extrait l'impôt. Et donc, il y a une forme de subalternité territoriale, le conjuguer à une forme de subalternité sociale. Je veux dire, les citoyens, les Tunisiens à l'intérieur vivent leur rapport à l'État central sur un mode vraiment complexe, comme étant dépossédé de chances d'opportunités économiques, de chances de vie digne, et d'un État démissionnaire qui n'a pas fait ce qu'il fallait pour justement corriger ces injustices. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, bien entendu, ces injustices ont été un cumul historique au cours de sur un processus pluriséculaire, bien entendu. Et il faut, je pense, trois choses importantes à avoir en tête. Le premier, c'est qu'il y a eu des tentatives après 1956, de développer les régions de l'intérieur. Et rappelons-le, d'ailleurs, la révolution de 2011 a montré, en quelque sorte, que cette Tunisie de carte postale, c'est un pays à deux vitesses. Les gens ont découvert les inégalités territoriales, etc. En revanche, ce qui a été mis en place après 2011, après la révolution, c'est réellement une politique volontariste de corriger ces injustices. 60% du programme de développement régional entre 2011 et 2015 ont été alloués aux régions de l'intérieur. Par contre, le niveau d'achèvement ou de réalisation des projets n'a pas dépassé les 50%, malheureusement. Ce qui montre que l'accumulation d'handicaps sur plusieurs décennies, voire même des siècles, a fait en sorte que ces régions-là restent malheureusement handicapées et que inverser cette tendance demande beaucoup de temps et beaucoup de moyens.
Vous parlez d'un gouvernement par l'attente, faire patienter la population, dénoncer les injustices mais sans en dévoiler les mécanismes, ni même dépasser le modèle de développement qui existe. Quand Kais Saied arrive au pouvoir en 2019 et qu'il s'octroie des pouvoirs élargis en 2021, il prétend non pas seulement représenter le peuple mais l'incarner. Est-ce qu'il parle aussi de ça, des inégalités entre territoires, et pour Gabès en particulier, qu'est-ce que ça donne, Diane Robert?
Oui, je pense que on doit comprendre l'arrivée au pouvoir de Kais Saied à l'aune de ces mécontentements très profonds qui ont aussi permettre aussi les soulèvements révolutionnaires de 2010-2011 et ensuite toute une série de protestations qui n'ont pas cessé au cours de la décennie qui a suivi. On était peut-être très focalisé sur les changements de politique institutionnelle, sur la mise en place d'une démocratie formelle, mais je pense que quand on s'est focalisé sur ces transformations-là, on a un peu passé sous silence les aspirations en fait des soulèvements qui étaient plus focalisés sur la question de la protection sociale, la question de l'emploi, des conditions de travail, l'accès aux ressources, l'accès à l'eau, la question aussi bien sûr des pollutions dont on a parlé. Et Kais Saied a pu bénéficier en fait de cela parce qu'il a promis aussi de corriger un peu le tir, de corriger la trajectoire révolutionnaire et aussi à un moment de renverser la pyramide du pouvoir, donc en permettant aussi à ses aspirations locales de pouvoir émerger. Or, c'est vrai que quand on regarde la gestion actuelle, par exemple, du dossier de Gabès, on ne voit pas forcément énormément de changements. Le répertoire est un peu le même. Donc, d'une part, on a un peu justement un gouvernement par l'attente, hein, si je reprends vos termes, Hamza Medeb, on mandate une commission qui va peut-être trouver des solutions, mais ensuite on ne sait pas exactement lesquelles.
Elles ont été rendues en janvier, mais pas rendues publiques. Voilà. C'est ça. Elles ont été remises en tout cas à Kais Saied et on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans.
Tout à fait. Ensuite, la plainte qui avait été donc déposée par la section régionale de l'ordre des avocats a été donc, l'audience au tribunal a été repoussée au moins 5 ou 6 fois jusqu'à avoir une fin de non-recevoir. Et par ailleurs, on promet que les projets de dépollution, de réduction des impacts vont pouvoir émerger. On a toujours aussi la promesse de, des annonces parfois ou d'un futur démantèlement des unités. Alors pour une délocalisation dans un autre site, ce qui correspondait à une promesse déjà faite en 2017.
Donc c'est vrai qu'on est bien dans une illustration de ce gouvernement par l'attente à Mzamedeb, Kais Saied qui d'un côté qualifie de crime la politique industrielle menée depuis un demi-siècle, dénonce l'assassinat de l'environnement, mais maintient qu'il faut absolument non seulement maintenir la production de phosphate, mais la relancer. Donc
c'est tout le paradoxe absolument. On voit bien la dissonance au sommet de l'État tunisien et le président, il incarne, je veux dire, un discours qui n'est pas suivi d'effets, qui en complète déconnexion avec la réalité. Il est toujours rattrapé par la crise fiscale, par l'acuité de cette crise fiscale, en rappelant que c'est un pays endetté à 85% de son PIB, et donc un régime qui est quasiment isolé, qui ne peut compter que sur très peu d'amis, qui a choisi de couper les ponts avec ses partenaires principaux. Voilà.
Oui, Diane Robert, vous souhaitiez dire quelque chose à ce sujet, et j'aimerais aussi que vous nous parliez du collectif Stop Pollution de Gabès et de savoir un peu qui le constitue et quels risques prennent les gens qui constituent tous les collectifs. Il n'est pas le seul, ce collectif Stop Pollution, toutes les associations qui se battent aujourd'hui pour un environnement beaucoup plus sain à Gabès, les risques qu'ils prennent à ainsi manifester publiquement et formuler leurs demandes publiquement.
Je voulais juste revenir, oui, sur peut-être ce qui distingue la réponse de Saied des réponses de ses prédécesseurs ou des gouvernements précédents, c'est qu'il il reconnaît quand même la légitimité du mécontentement à Gabès en disant que chaque Tunisien a droit à un environnement sain et en peut-être aussi en focalisant ses ou en tout cas en fustigeant des conspirateurs ou des traîtres ou des corrompus qui seraient en fait à l'origine de la crise de Gabès.
Mais ça, c'est son discours à chaque fois. Enfin, tout n'est que complot avec Kais Saied, on dirait. Tout là aussi, fait. C'est un complot. On ne sait pas de qui, mais...
Tout à fait, mais peut-être que ce discours reste un peu efficace ou en tout cas permet aussi... Enfin, je pense qu'il a quand même un certain... retentissement, ou en tout cas, il a une...
Mais y compris à Gabès, parce qu'à Gabès, les gens voient bien que, par ailleurs, on leur dit que leur lutte est légitime. Or, il y a quelques semaines, des représentants de ce collectif Stop Pollution ont appris qu'ils étaient condamnés à de la prison ferme.
Alors, moi, je n'aurais pas les moyens de savoir comment... Enfin, quel est le rapport à Kais Saied à Gabès, mais je ne suis pas sûre que... Enfin, je pense qu'il faut être mesuré par rapport à ça.
Ce n'est pas lui qui est accusé, c'est vraiment les industries chimiques.
Voilà, aussi les gouvernements précédents, etc. Et par ailleurs, oui, actuellement, on voit qu'il y a des arrestations, il y a une répression, alors qu'il n'est pas non plus complètement nouvelle, enfin, non plus, mais là, voilà, je ne saurais pas dire à quel point ces collectifs doivent s'inquiéter. En tout cas, oui, le collectif Stop Pollution existe depuis une dizaine d'années maintenant. Il est assez visible. Il a aussi eu des... Enfin, pas forcément... certains de ses membres ont aussi pu soutenir Kais Saied ou le rencontrer par le passé. Donc, il y a aussi ces connexions-là.
Mzamedeb.
Oui, absolument. Je veux dire, Kais Saied, il est fidèle à sa stratégie de chasse à l'ennemi intérieur et à la théorie du complot. Alors, les pénuries de produits alimentaires ne sont pas le produit de l'incapacité de l'État à financer ses importations à cause de la crise fiscale, mais c'est le produit d'un complot que certains membres de l'opposition, y compris ceux qui sont en prison, seraient responsables. Dans le cas de Gabès, c'est intéressant. Il a dénoncer l'incompétence et peut-être même l'attitude complotiste d'un certain nombre de fonctionnaires responsables du groupe chimique et qui n'auraient pas changé ou entretenu les fameux filtres à air censés filtrer l'air, etc. Et tout ça, c'est vraiment un discours simpliste, comme l'a mentionné Diane Robert, mais c'est un discours simpliste, mais qui marche, malheureusement, parce que on voit la stratégie de Saied, qui consiste à investir et dans le ressentiment, à faire du ressentiment une ressource politique. Et que c'est toujours compliqué d'expliquer à la population que le groupe chimique qui a été créé en 1972 arrive peut-être à sa fin de vie, à la fin de vie techniquement parlant, et que le remplacement de toutes ces unités-là Et le démantèlement va coûter des milliards de dollars. On parle d'un budget de 2 milliards de dollars. Réellement, je veux dire, de modernisation, de démantèlement et d'installation ailleurs. Et que forcément, face à des équipements qui sont en fin de vie, il faut pas s'attendre, il faut s'attendre réellement à des catastrophes environnementales et sanitaires. Et c'est toujours un peu compliqué. Le plus simple, bien entendu, et c'est le propre même du populisme, c'est de proposer des réponses simples à des questions imminemment complexes. Et l'une d'elles, c'est de trouver le haut fonctionnaire ou le fonctionnaire, le directeur du complexe chimique qui serait responsable du non-remplacement d'une pièce dans la machine, quoi.
Et donc ces collectifs, est-ce que Diane Robert, ils demandent aujourd'hui vraiment à ce que soient réparées les usines, à ce qu'on les démantèle? Pareil, d'ailleurs, c'était l'année dernière, pile il y a un an, on avait annoncé en Tunisie l'implantation d'une usine de production d'ammoniac vert sur le site du GCT, donc utilisé avec le phosphate pour fabriquer des engrais. On sait que l'ammoniac vert est fabriqué aujourd'hui grâce à de l'hydrogène produit à partir d'une énergie décarbonée, mais surtout que l'Europe en importe beaucoup, et donc il s'agit toujours de maintenir des niveaux d'importation suffisants pour assurer des devises. Que demandent exactement ces collectifs, Diane Robert?
Alors, je pense qu'une majorité, là, actuellement, des groupes Agabès demandent explicitement le démantèlement des unités. Quand ils disent démantèlement, ça veut dire quand même toujours relocalisation, ce qui fait suite à un projet annoncé en 2017, donc de relocalisation en périphérie du gouvernorat, dans un site autour duquel les populations ne sont pas forcément non plus en faveur de ce projet. Donc, il y a aussi...
On repousse toujours chez les autres.
Voilà. Et donc, après, en fait, ça attise des conflits un peu interterritoriaux, ou en tout cas personne ne veut accueillir les installations polluantes que les par exemple que la population agabès refuse, et en périphérie ça alimente aussi un sentiment d'être marginalisé encore plus que les populations de Gabès centre. Mais je pense que tout ça illustre aussi la difficulté de trouver une solution à ce problème de fond en voulant continuer à exporter encore plus de phosphate, comme Hamza Medeb le racontait, tout en produisant de manière propre, ce qui n'est pas possible complètement. Après, en effet, oui, ces installations sont vétustes.
Et on sent en tout cas que les habitants prennent vraiment à bras le corps cette question-là, et notamment les jeunes, parce que si j'ai bien compris, le collectif Stop Pollution, ce sont surtout des jeunes, comme aux îles Kerkena d'ailleurs au large de Sfax, où sont installées des infrastructures d'extraction de gaz et de pétrole. La population se mobilise contre les fuites de pétrole, et ces mouvements sont souvent portés par les jeunes. C'est ce que vous avez remarqué aussi sur le terrain?
Oui, mais pas seulement. Pas seulement. Il y a aussi des gens plus âgés. Après, Stop Pollution est un groupe qui est plutôt jeune et qui maîtrise très bien la communication, qui est aussi assez bien connecté au niveau national avec des associations qui ont un peu pignon sur rue, ou qui en tout cas sont reconnus et légitimes, dans le cadre
d'une lutte sociale. L'UGTT, l'Union Générale Tunisienne du Travail, a appelé à la grève générale à Gabès, à relayer cette lutte-là.
Tout à fait. Je pense qu'ils étaient aussi un peu, ils étaient obligés de le faire tellement le mécontentement a été fort.
Vous voulez dire...
Oui, peut-être aussi. Oui, pardon. Justement, en fait, ce qu'on voit actuellement, c'est que des nouveaux projets sont annoncés à Gabès, alors qu'il y a quand même cette promesse dans l'ombre, en tout cas, de démantèlement. Donc, il y a une contradiction, et c'est ce que les collectifs soulignent, justement.
Hamza Medeb, ces territoires reprochent à l'État de les considérer comme des lieux à exploiter et non à développer. Peut-être pour une conclusion un peu plus large de cette première partie, la dette tunisienne est passée de 40% du PIB en 2011 à 80% en 2021. Est-ce que cet argent a été employé à des politiques sociales? Qu'est-ce qui est aujourd'hui, si l'on parle de politique sociale en Tunisie, des projets de Kais Saied dans la matière? Est-ce qu'on a quelques éléments pour savoir s'il travaille à amoindrir cette fracture et territoriale et sociale?
Malheureusement, la dette à bénéficier surtout aux groupes sociaux qui sont intégrés, je veux dire en termes de hausse de salaire dans la fonction publique, en termes de d'avantages à un certain nombre de groupes économiques, etc. D'ailleurs, qui contrôlent une économie rentière. Les laissés pour compte se sont retrouvés, encore une fois, un peu les oubliés ou les de l'histoire. Et c'est ce qui explique même la montée du populisme et la montée de Kaysaï depuis 2019. Et cette vague populiste qui a déferlé, qui a emporté en quelque sorte la démocratie en 2021. Après, je pense que le gros problème, c'est une absence de vision dans le pays. C'est que on est face à une accumulation d'inégalités sur un processus historique qu'il faudra inverser à un moment ou à un autre. Mais comment faire ça? Ça, franchement, tous les gouvernements se sont cassés les dents sur cette... on a pensé aux banques de développement, on a dépensé de l'argent, mais malheureusement, on a vu très peu de réalisations sur le terrain. Et donc, je pense que la région de l'intérieur, comme le reste du pays, se retrouve face à un problème épineux qui est... quelle vision pour repenser le développement dans Tunisie ?
Et une vision qui a été très hachée par ailleurs pendant la révolution de 2011 à 2021, date à laquelle Kaysaï s'octroie les pleins pouvoirs. De nombreux gouvernements se sont succédés, ce qui n'a pas facilité un art de solidifier les institutions et de faire en sorte qu'elles puissent prendre des décisions qui améliorent la vie des habitants. Améliorer la vie des habitants, c'est d'abord et avant tout parer aux urgences en Tunisie, comme celle de l'accès à l'eau. On en parle juste après ce chanteur tunisien Mortad Aftiti.
يا البابور ما طبت علينا كلنا الوحش ويا ما عديت غربة وسنين طويلة متوحش لأمي مع حومة والبيت وبلادي اللي منها لزوني لقت في رزقي من بعيد لزنقة الحومة وتربها ردوني كرهوني في بلادي وكهجرت بكيت استنينا الوحش وكلنا يلي بعد علينا مشيتو بالسلامة وهي في المدينة طبيعات اللي سالوا على ميمتي الحنينة ما خانوا هاي يا ربي حمينا هاي السلام سلام عليكم
Le chanteur tunisien Mortad Aftiti et sa chanson Madina qui date de l'année dernière, ils m'ont fait haïr mon pays, dit-il, et quand je suis parti, j'ai pleuré. C'est le deuxième épisode de notre série sur les désenchantements de la nation tunisienne 15 ans après la révolution de 2011. Aujourd'hui, les inégalités territoriales, particulièrement marquées en Tunisie, hors de Tunis et Sfax, les citoyens se sentent délaissés. La crise de l'eau, notamment, n'affecte pas du tout les Tunisiens de la même façon.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
La soif nous tue, nous avons très soif. La soif nous tue, nos enfants et nos animaux, nous avons très soif. Si on avait de l'eau à la maison, tout le monde serait libre. Il pourrait faire le plein quand il le voudrait. Mais à cet âge, je porte deux bidons et je passe tout l'après-midi ici dans cette chaleur.
Cette habitante de Joumine, dans le nord de la Tunisie, raconte à TV5 Monde qu'elle parcourt tous les jours 30 kilomètres pour trouver de l'eau. Cet été-là, en 2024, la sécheresse a été particulièrement intense. Elle a mis à rude épreuve des infrastructures déjà très mal gérées et des nappes phréatiques surexploitées. Bonjour Augustin Le Gall.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes photographe et réalisateur. Votre dernière série photographique s'intitule « Or bleu en Tunisie, un pays qui a soif ». Une série présentée pour la première fois fin novembre dernier dans la région de Tozeur, aux portes du désert, là où commence le Grand Sud tunisien. Alors, à défaut de pouvoir nous montrer vos photos, est-ce que vous pouvez nous en décrire et expliquer quelques-unes, comme par exemple ce cliché pris à Gabès, pour faire le lien avec notre discussion de tout à l'heure. Deux hommes sont en train de pomper de l'eau pour leur récolte. Comment l'activité des usines de chimie à Gabès a affecté l'accès à l'eau, en particulier pour les agriculteurs?
Oui, tout à fait. Cette photo donc, qui présente deux membres de la famille, une des familles qui est de l'oasis de Chott Salem, qui est aux abords de l'usine de traitement de Gabès. En fait, on les voit en train de tirer de l'eau de leur pluie informelle dans les goulots d'irrigation qui sont censés servir pour irriguer un peu toute la palmeraie. Et en fait, cette famille-là, comme nombreuses familles de l'oasis de Gabès, sont obligées en fait de creuser des puits illégaux pour pouvoir irriguer de manière régulière leurs parcelles. Parce que, alors cette photo date de 2016, parce que c'était l'époque où je travaillais sur la question du phosphate justement en Tunisie. Et donc Gabès avait été une des grandes parties de mes travaux. Et justement, les tours d'eau en fait mis en place par les autorités publiques en fait étaient tellement énorme, entre 40 et 45 jours, que du coup, les agriculteurs locaux n'avaient pas la capacité d'irriguer correctement leurs parcelles. Donc, les gens mettaient en place, les familles mettaient en place, ce type d'irrigation illégale, c'est ce qu'ils appellent illégale, mais ils perçaient, en fait, à 30 mètres, 20 mètres, maintenant, aujourd'hui, beaucoup plus, parce que les nappes phréatiques ont baissé, pour pouvoir continuer, 80 mètres aujourd'hui, irriguer leurs parcelles, qui sont souvent des parcelles familiales, d'agriculture familiale, Cette photo présente ça. Ouais. Et du coup, c'est vrai que... Oui, pardon.
Des hectares entiers ont déjà été rasés dans certaines palmeraies oasis de cette région de Gabès où l'industrie chimique pompe énormément d'eau. Mmh. Et on racontait tout à l'heure aussi qu'elle déversait tous ces déchets dans la mer. Autre photo, Augustin Legal, celle vue de dos d'un camion-citerne, alors couleur vert pâle, exactement le même vert que le cours d'eau qu'on aperçoit en contrebas et dans lequel un homme est lui aussi en train de puiser de l'eau. Où a été prise cette photo?
Alors cette photo a été prise en 2022 dans la région de Kairouan, le gouvernorat de Kairouan, c'est-à-dire la grande région, près du barrage de El Werb, qui est un des grands barrages de l'ouest de la Tunisie, dans la région de Kairouan. Et on voit un homme en fait remplir de l'eau dans un camion-citerne tiré par un tracteur et dans une résurgence d'eau qui a été creusée de manière aussi illégale, on va dire, par les agriculteurs locaux, pour pouvoir en fait irriguer aussi leurs parcelles. Et là en fait ce camion-citerne proviendrait en fait, à l'époque c'était des gens qui nous amenaient sur ces territoires, nous avaient dit que c'était la cimenterie locale qui avait besoin d'énormément d'eau aussi pour son activité économique et industrielle, et donc venait remplir des milliers de litres d'eau dans les citernes. Et souvent, ces camions-citernes, on les voit souvent sur les routes tunisiennes. Ça peut être parfois pour des familles, ça peut être pour des écoles. En fait, ces camions-citernes, ils sont très très présents pour pouvoir justement stocker l'eau et les amener dans des endroits où l'eau n'arrive justement pas jusqu'au village, par exemple.
Et est-ce qu'on sait d'ailleurs, quand cette eau vient directement des camions-citernes pour les habitants, est-ce qu'entre-temps elle est plus ou moins traitée, assainie, où les habitants doivent directement prendre cette eau-là?
Non, c'est bien ça le problème, c'est qu'elle est absolument pas ni traitée ni assainie, et qu'elle même quand vous voyez les installations des pompes de ces résurgences d'eau, de ces puits informels, ça reste vraiment de manière très très rudimentaire en fait. Donc il y a absolument aucun traitement, aucun test qui est fait au niveau sanitaire pour savoir si l'eau est bonne. C'est quelque chose qui du coup touche aussi à la santé. Et c'est vrai que toute cette question de l'eau, elle touche, à mon avis, plusieurs phénomènes qui sont liés notamment au changement climatique, à la question de la santé, à la question de l'accès à l'eau, au droit à l'eau, mais aussi social. Parce que, par exemple, dans ces régions de Kairouan, comme vous parliez de cette femme qui fait 30 km à dos d'âne ou à pied pour récupérer des bidons d'eau et remplir à la source, en fait, ce sont souvent les femmes aussi qui sont un peu obligés de faire cette activité-là pour aller récupérer l'eau. Et du coup, ça touche tout un pan de la société tunisienne, vraiment à différents niveaux.
On estime à 300 000 le nombre de personnes en Tunisie qui n'ont pas d'eau potable chez elles. Est-ce que les populations auprès desquelles vous avez pu faire vos photos sont plus ou moins habituées selon les régions, ou pour certaines, c'est vraiment très nouveau?
Non, les gens sont, je dirais, nouveaux ou pas nouveaux, ça je pourrais pas vous dire.
En tout cas, si la sécheresse a vraiment affecté le quotidien des gens depuis quelques années.
Ce que je peux vous dire, c'est que vraiment depuis au moins 5-6 ans, il y a entre le réchauffement, on va dire, des saisons sèches, ou l'été par exemple en 2023, je me rappelle qu'on avait eu 53 degrés à Tunis en plein été au mois d'août, donc entre le réchauffement... Le fait qu'aussi que les agriculteurs, que les industries, en fait, épuisent les nappes phréatiques, si vous voulez, du coup, on a beaucoup moins de ressources en eau. Et vous pouvez me répéter la question.
Non, la question, c'était de savoir si pour certains, c'était nouveau de voir d'avoir cette sécheresse. Dans certaines de vos photos, on voit des réservoirs d'eau, ou plutôt un immense bassin de rétention d'eau totalement vide à Segdoud, par exemple. Ce qu'il y reste d'eau ressemble ni plus ni moins qu'à une flaque. Il y a aussi cette rivière dont vous nous parliez tout à l'heure, de la résurgence creusée illégalement, la rivière j'ai plus son nom, mais d'Oued Marguelil. On la voit prise vue du ciel, elle n'est pas très haut, mais en altitude. Cette rivière, elle est totalement desséchée. Les arbres qui peinent à donner quelques feuilles rousses, ça ressemble plutôt à de la mousse. Tout ça, dans quelle mesure est-ce que c'est nouveau ?
Oui, disons que dans les années 60-70, même quand on comparait les photos de Gabès des années 60-70 à aujourd'hui, il y avait énormément d'eau. Donc oui, c'est un phénomène qui arrive depuis, je pense, une vingtaine d'années, une dizaine d'années, qui est vraiment, en plus, qui devient de plus en plus difficile et de plus en plus présent aujourd'hui du fait qu'il y a moins d'eau et que les ressources vraiment s'amenuisent. Et en plus du fait qu'avant, si vous voulez, aussi, quand même, beaucoup de gens étaient raccordés à l'eau dans les régions, notamment, et sauf qu'aujourd'hui, malgré les politiques de développement à ce niveau-là, en fait, beaucoup de villages en bout de ligne, comme on les appelle, en fait, sont parfois raccordés à l'eau, mais l'eau n'y arrive pas. Parce qu'il y a aussi des problèmes de gestion, en fait, souvent des groupements de développement agricole, pardon, ce qu'on appelle les GDA, qui gèrent, en fait, toutes ces questions agricoles liées à l'eau dans les parties des régions rurales. Et souvent, il y a des problématiques qu'on a pu noter comme de la corruption, mais aussi, finalement, de la part des citoyens qui parfois, ne payent pas forcément les factures d'eau pour pouvoir, avoir l'accès à l'eau facilement, et du coup les GEDA se retrouvent aussi parfois endettés et du coup sont obligés en fait de couper l'eau. Donc c'est un phénomène nouveau à la fois en termes de réchauffement climatique, mais aussi en termes de gouvernance.
Les responsabilités sont partagées, mais maintenant les mobilisations, que ce soit par les pouvoirs publics, les agriculteurs ou d'autres citoyens, qu'est-ce qui est entrepris aujourd'hui pour économiser le plus possible cette ressource de plus en plus rare et dont un rapport d'experts de l'ONU a fait savoir en janvier que son exploitation chronique aujourd'hui dans le monde dépassait désormais les seuils de renouvellement. Est-ce que vous voyez quand même qu'il y a une forme de prise de conscience dans les régions que vous avez traversées ?
Alors, il y a une prise de conscience déjà citoyenne, ça c'est certain. On a beaucoup de citoyens, d'agriculteurs qui ont des petites parcelles qui tentent de se rediriger vers plutôt des fermes agricoles, comme on dirait, ou en tout cas qui prennent en considération les ressources locales et des plantes et des légumes ou des fruits qui en fait sont beaucoup moins gourmands en eau. Ça, il y a quand même une forme de groupement citoyen, de communautés qui réfléchissent à comment aujourd'hui faire attention aux ressources en eau, et notamment tout ce qui va avec l'agriculture, on va dire, familiale et permacole. Et puis, vous avez aujourd'hui aussi, comme quand même la Tunisie est un des pays où la tech est très très développée, vous avez des startups aujourd'hui, comme iWAS ou WeDetect, qui permettent en fait de réfléchir à optimiser pour l'agriculture ou pour la recherche des fuites d'eau, parce que quand même les fuites d'eau, c'est quand même un tiers des pertes d'eau, 8% des pertes d'eau en Tunisie, pour essayer de réfléchir à optimiser ces ressources en eau et les protéger.
Et déclencher à distance le goutte-à-goutte notamment. On souligne aussi que votre exposition de photographie en novembre dernier à Nefta lors des rencontres éco-solidaires avait été organisée par les populations, enfin les habitants de ces régions, ce qui prouve bien aussi que cet intérêt est vivant pour la ressource en eau. Merci beaucoup Augustin Le Gall, nous mettons le lien vers votre travail photographique sur le site de Culture Monde. Merci beaucoup Hamza Medeb et Diane Robert d'avoir été avec nous dans cette émission. Hamza Medeb, je rappelle le titre de l'ouvrage que vous avez coécrit avec plusieurs chercheurs, L'état d'injustice au Maghreb. Merci d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale, Catherine Dutu.
Et cela fait partie des conflits qui passent sous les radars médiatiques avec la guerre au Moyen-Orient. Et pourtant, au Soudan, les combats s'intensifient, les civils se retrouvent pris entre deux feux, Catherine.
Victimes de bombardements, déplacés, 300 000 hommes, femmes et enfants ont dû quitter leur maison depuis décembre dernier, survivant aujourd'hui dans le plus grand dénuement, contraints de dormir à la rue, parfois, sans accès aux soins, à l'eau, à de la nourriture, alerte la BBC. Plus de 800 000 enfants risquent aujourd'hui une malnutrition aiguë, ajoute Africa News. 70% des jeunes ne sont plus scolarisés dans la nation la plus récente du monde. Et l'ONU craint une nouvelle guerre civile généralisée. Des crimes de guerre avec des sources d'eau empoisonnées ou détruites lors de frappes aériennes menées par le gouvernement. L'épicentre des affrontements meurtriers se situe dans l'état de Jonglei, dans l'est du Soudan du Sud, avec d'un côté les forces gouvernementales fidèles au président sud-soudanais Salva Kiir et de l'autre les milices d'opposition fidèles à Riek Machar après qu'un accord de partage de pouvoir a volé en éclats entre les deux hommes, précise la BBC et The New Humanitarian. Riek Machar est assigné à résidence à Djouba, la capitale du Soudan du Sud. Il a été suspendu de ses fonctions de vice-président après avoir été accusé de complot et de trahison. Ses partisans au sein de l'Armée populaire de libération du Soudan, SPLAIO, ont pris le contrôle de villes dans le Jonglei et dans d'autres états voisins. Ce sont ces forces rebelles que l'armée loyaliste du Soudan du Sud veut déloger, comme le rapporte Radio Tamazouj et le quotidien Sudan's Post. Quand nous arriverons là-bas, n'épargnez ni les personnes âgées, ni les poulets, ni même les maisons, a lancé le général Johnson Ohloni face à ses troupes qui veulent mater la rébellion, notamment dans l'état du Jonglei et du Haut-Nil, rapporte le Sudan's Post. Alors qu'ils avançaient, menaçant Bor, la capitale du Jonglei, ces rebelles ont semé la désolation sur leur passage. Des villages entiers ont été incendiés, décrit la BBC, et des civils tués sans distinction.
Et le gouvernement a répliqué avec violence lui aussi, et des civils ont également été attaqués.
Comme la famille de Niawang Kong, cette jeune femme de 30 ans et ses 5 enfants ont fui Ayod, un comté isolé et majoritairement pastoral de l'état de Jonglei où des affrontements armés faisaient rage entre les militaires et leurs adversaires, raconte la BBC. Niawang a perdu ses deux parents lorsqu'une frappe aérienne a touché leur petite hutte au toit de chaume. Le feu est tombé du ciel, il nous a brûlés, témoigne-t-elle auprès de la BBC. Cette sud-soudanaise et ses enfants ont dû marcher pendant 2 jours pour atteindre le village poussiéreux de Douk, où des organisations humanitaires arrivent encore à fournir des vivres et des médicaments. Mais avec l'intensification des combats et les restrictions gouvernementales, des ONG et des hôpitaux n'arrivent plus à faire face à l'affluence des blessés.
We are soaking out of everything, surgical items, fuels. My appeal is to government is to allow humanitarian access to.
Nous manquons de tout. Nous sommes en rupture de stock pour le matériel chirurgical. Plus d'énergie pour approvisionner notre hôpital, s'inquiète devant la caméra d'Al Jazeera le docteur Gil Samuel, un chirurgien qui enchaîne les amputations sur les civils sud-soudanais dans la ville d'Akobo, dans l'état du Jonglei. Ce médecin en appelle au gouvernement pour qu'il autorise l'accès humanitaire à cette zone touchée par la guerre, sachant que les coupes budgétaires dans l'humanitaire n'ont rien arrangé, ajoute Al Jazeera. L'an dernier, cet hôpital d'Akobo était soutenu par Care International. L'organisation affirme aujourd'hui qu'elle reprendra ses opérations dès que possible. Mais cela ne ramènera pas la mère d'un jeune garçon hospitalisé, lui aussi, à Akobo après une blessure à la jambe. Des forces gouvernementales ont attaqué son village, tirant sur les civils. Ils ont abattu sa mère alors qu'elle tentait de s'enfuir avec lui dans la brousse. L'ONU et les ONG craignent le pire aujourd'hui au Soudan du Sud. 8 ans après la fin de la guerre civile, rappelle la BBC, qui avait fait près de 400 000 morts, impossible aujourd'hui de connaître le nombre précis de victimes des conflits qui ont repris au Soudan du Sud, indique le Guardian. L'armée sud-soudanaise a ordonné au début du mois aux forces de la mission onusienne au Soudan du Sud et aux ONG de se retirer de cette région d'Akobo, bastion des forces rebelles tout près de la frontière avec l'Éthiopie, avant des offensives militaires d'ampleur ce mois-ci, rapporte l'agence de presse AP. Le travail des ONG est compliqué par cette violence, par les pluies aussi, qui rendent les routes impraticables au Soudan du Sud. The New Humanitarian craint, lui, des massacres à caractère ethnique. Un dernier mot, j'attends vos questions, vos remarques sur cette chronique à l'adresse fcrdpi@radiofrance.com. Je vous le rappelle, c'est avec vous que se construit la chronique interactive du samedi.
Merci beaucoup, Catherine Dutu.